Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et Sergio Colella est avec nous. Bonsoir Sergio.
Bonsoir François.
Vous êtes le président de Cita Europe. Et on va évoquer avec vous ce sujet passionnant hein, des transports aériens, du transport aérien et de la manière dont la technologie est en train de bouleverser en fait tout ça. Et puis la technologie est toujours là. Et vous en êtes d'ailleurs, j'ai envie de dire, un peu le meilleur exemple, hein, le meilleur témoin, puisque vous fêtez cette année vos 75 ans, hein, Cita. Cita qui est, il faut le savoir, le leader mondial de la technologie du transport aérien, qui a été fondé donc, quand on calcule, en 1949. C'est les compagnies aériennes pionnières, en quelque sorte, qui vous ont créé. Pourquoi ? Et racontez-nous un petit peu l'histoire de Cita en 49.
Alors, c'est une histoire tout à fait unique et intéressante, parce que en 1949, 11 compagnies aériennes ont compris avant l'heure que le fait de partager des infrastructures communes, technologiques, d'avoir un réseau commun, d'avoir des systèmes d'information qui pouvaient communiquer entre eux, leur permettrait d'opérer partout dans le monde, quel que soit l'aéroport dans le monde. Et donc l'idée de la Cita est née. Depuis, le transport aérien a été multiplié par 50. Et la Cita a grandi avec le transport aérien.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en 49, il n'y avait pas Internet. Enfin, je veux dire, le fait de créer des réseaux communs, en tous les cas, une espèce de d'entente entre les compagnies aériennes, c'était incroyable. Enfin, je veux dire, c'est fou.
Oui, c'était une idée qui avait peut-être 40 ans d'avance sur son temps.
C'est clair. Aujourd'hui, Cita appartient à qui ?
Aujourd'hui, Cita appartient toujours au transport aérien.
D'accord.
Donc nous appartenons aux 11 compagnies qui ont eu cette idée, mais aussi aux autres acteurs du transport aérien. On opère partout dans le monde, on est présent dans 1000 aéroports. On peut dire que toutes les compagnies aériennes et pratiquement tous les aéroports dans le monde ont un morceau de technologie de la Cita. Et on calcule que sur une flotte d'avions commerciaux d'environ 20 000 avions dans le monde, nos solutions équipent 17 000 avions.
Vous avez 2500 clients et vous êtes là pour améliorer l'efficacité opérationnelle dans plus de 1000 aéroports, vous le disiez. Donnez-nous quelques exemples d'innovations que vous mettez en œuvre, à la fois dans les avions et aussi dans les aéroports.
Alors, les innovations, il y en a partout. Et d'ici à 2030, vous en verrez beaucoup plus arriver. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler.
On va parler du futur tout à l'heure. Mais là, dites-nous déjà ce que vous avez implémenté dans les avions et dans les aéroports.
Alors, pour prendre quelques exemples, lorsque vous arrivez dans un aéroport, quel qu'il soit, vous voulez déposer vos bagages, vous avez la possibilité de déposer vos bagages dans auprès d'une machine qui vous reconnaît, qui va pouvoir gérer votre réservation. Vous déposez votre bagage, l'étiquette bagage sort de manière automatique et vous mettez le bagage à disposition pour qu'il soit chargé.
Oui, ça, c'est un peu comme un tapis robot finalement, on n'est plus obligé de passer devant un agent. C'est ça,
voilà,
hein ?
Exactement. Okay. C'est tout ce qui est technologie en libre-service.
C'était au début pas mal en panne, ça l'est moins maintenant. Ça marche un peu mieux, j'ai l'impression.
Oui, ça marche de mieux en mieux.
C'est vrai.
Ça marche de mieux en mieux.
Quoi d'autre ? Paraf, c'est vous, par exemple, ou pas ?
Alors, toute la technologie qui permet de faire en sorte que on puisse être reconnu sans devoir passer devant un agent de police, par exemple,
d'accord,
aux frontières, avec son passeport, est fournie par plusieurs fournisseurs, dont la Cita.
Ok. Vous êtes présent, donc vous êtes l'une des briques de ce système.
On est une des briques dans certains pays, pas en France, mais en Italie, aux États-Unis, en Chine. Et donc ça, c'est un élément de technologie, d'innovation qu'on a mis en place récemment. Lorsque vous êtes dans un avion et vous pouvez vous connecter au Wi-Fi alors que vous avancez à une vitesse de 800 km/h au-dessus des océans, ça aussi, c'est la technologie de la Cita. par exemple.
Alors, la technologie que vous mettez en place dans les avions, c'est quoi ? C'est le fait de capter le satellite pour restituer le Wi-Fi après à l'intérieur et l'Internet dans l'avion, c'est ça ?
Par exemple, ouais. Ça, c'est une des technologies. Une autre technologie, c'est tout ce qui est la communication entre le cockpit et la tour de contrôle. Okay. On avait eu le plaisir de parler ensemble des technologies qui permettent d'optimiser les phases de décollage, d'atterrissage des avions.
Bien sûr.
Ce qui permet de réduire les consommations de kérosène et donc les consommations de CO2, les émissions de CO2. Ces technologies sont maintenant déployées dans plus de 20 compagnies aériennes.
C'est vraiment le sujet compliqué hein, aujourd'hui, l'environnement dans le transport aérien qui est pointé du doigt par énormément de personnes. Est-ce que vous travaillez justement, est-ce que vous accélérez sur ce sujet, sur l'environnement et comment, grâce à la technologie, on peut améliorer encore la consommation énergétique des avions ?
Alors c'est un problème fondamental et on ne peut pas ne pas s'y atteler et ne pas le résoudre. Donc aujourd'hui, l'industrie aérienne représente entre 2 et 3% des émissions mondiales de gaz, soit effet de serre, soit CO2, 3%. Et comme dans toutes les industries, nous faisons l'effort pour le réduire.
D'accord.
On a trois méthodes principales. La première, c'est le kérosène vert, donc l'utilisation de ce qu'on appelle le Sustainable Aviation Fuel. L'inconvénient, c'est qu'il est 4 fois plus cher, qu'aujourd'hui, la production représente à peu près 1% des besoins.
Mais donc, c'est une goutte d'eau, sans mauvais jeu de mots. Hein.
Oui, voilà. C'est une goutte d'eau qui va être amenée à se développer, mais qui va prendre du temps.
Bien sûr. Mais on n'arrivera jamais à 50%, enfin, je veux dire, dans des dizaines d'années.
Alors, notre industrie, IATA, qui est donc l'organisation des compagnies aériennes, a donné comme objectif de devenir neutre en carbone à horizon 2050. Donc dans 25 ans. Donc c'est un délai qui semble long, mais il faut commencer à y aller. Donc ça, c'est une voie. La deuxième voie, c'est des technologies d'avions qui soient de plus en plus récentes. Aujourd'hui, un avion consomme moins de la moitié du kérosène qu'un avion des années 90. Donc il faut continuer dans cette voie. Il y a une troisième voie qui est tout aussi importante, c'est celle de l'optimisation de chaque étape. Comme on le ferait sur Google Maps, le fait d'optimiser chaque étape, et on se rend compte en fait que chaque avion, au travers de l'intelligence artificielle, on voit que chaque avion a un comportement qui est un petit peu différent. Et donc, on a des logiciels de machine learning qui optimisent chaque phase de décollage, de atterrissage, le roulage sur le tarmac est très consommateur de kérosène et donc d'émissions de CO2. Et on est en train aussi de se rendre compte que même les routes, il y a moyen de les optimiser à hauteur de 10%. Donc c'est toutes ces étapes-là qui, mises bout à bout, vont rendre notre industrie plus propre.
Et c'est l'intelligence artificielle, les algorithmes, tout ça qui vont vous aider, c'est passionnant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes devenu le principal investisseur d'une entreprise qui s'appelle Indicio, alors qui est peu connue hein, aux yeux du grand public, mais qui est le leader mondial du marché des technologies d'identité décentralisée. Et là, ça va vous intéresser, vous qui prenez peut-être de temps en temps l'avion, comme beaucoup d'entre nous. C'est vrai que le point un petit peu tendu, c'est les files d'attente, c'est les papiers qu'il faut avoir, les papiers d'identité, etc. On se rend compte que dans certains aéroports, ça bouge, beaucoup. Hein. Moi, j'ai été surpris la dernière fois, j'étais aux États-Unis, j'ai embarqué sans montrer ma carte d'identité, simplement avec la reconnaissance faciale. Ça avance. Et vous êtes l'un des acteurs, en fait, de cette innovation.
Oui, absolument. Et il faut qu'on se mette dans le contexte où, aujourd'hui, en 2024, il y a 4 milliards de passagers aériens dans le monde. On prévoit, à horizon 2040, le doublement de ce nombre de passagers. Parce que l'industrie aérienne, et parce que le fait de voyager attire de plus en plus de passagers. Donc, on est dans un contexte de croissance continue du nombre de passagers.
Quasi exponentielle, en fait.
Oui, on va doubler en l'espace de 15 ans. Et, en même temps, on a des infrastructures, surtout en Europe, qui sont contraintes. Un aéroport est une infrastructure complètement contrainte.
Bien sûr.
Donc,
qui peut devenir vite sous-dimensionnée.
Absolument. On veut créer une expérience de voyage qui soit fluide, et la technologie est là. Et donc, il y a deux éléments de technologie que je voudrais présenter là. Le premier, c'est la biométrie, donc le fait d'être reconnu par ses traits. Hein, donc ça peut être l'iris, ça peut être la reconnaissance faciale, les empreintes digitales. C'est de plus en plus la reconnaissance faciale qui, avec l'intelligence artificielle, fait des progrès de géant. Donc on arrive à reconnaître de plus en plus les personnes, même lorsqu'elles sont un peu loin de la caméra, lorsqu'elles bougent.
Avec des taux d'erreur très acceptables.
Ouais, très inférieurs à 1%. Quand on considère en général que c'est 10 fois plus lorsqu'il y a un contrôle physique. Hein. D'accord. Donc, le taux d'erreur n'est pas le problème.
Donc, c'est plus pratique, c'est plus fluide et c'est plus efficace.
C'est plus efficace, c'est moins coûteux. On peut adresser le personnel à d'autres tâches qui sont plus à plus forte valeur ajoutée. Et donc, ça, c'est le premier élément, c'est la biométrie. Le deuxième élément, c'est l'identité digitale, personnelle, décentralisée. C'est-à-dire que je ne suis plus obligé d'avoir un passeport papier. Je peux avoir un jeton dans mon téléphone, un jeton numérique qui donne l'identité digitale et que je peux partager lorsque je le décide pour pouvoir passer un contrôle, pour pouvoir vérifier que j'ai l'âge acceptable pour rentrer par exemple dans une discothèque, etc. Et donc Indicio est un des leaders mondiaux, c'est une société américaine, un peu plus qu'une start-up, dans la gestion de l'identité digitale déportée que vous trouverez un jour dans vos smartphones.
Ça arrive en France d'ailleurs avec la carte nationale d'identité numérique.
Absolument.
C'est un autre concept, c'est un autre système là que la France a choisi.
Alors absolument, ce sont des technologies différentes. Ce qu'il faut, c'est un cadre réglementaire qui soit commun.
Et une compatibilité parce qu'il faudrait que ce système puisse communiquer avec vos systèmes de sécurité.
Absolument.
Et on peut imaginer justement des passerelles comme ça.
Oui, absolument. L'idée, c'est l'interopérabilité. Ce qui a fait la force du secteur aérien, c'est l'interopérabilité des systèmes. Mais je voudrais signaler que aujourd'hui, lorsque vous allez à Francfort, on a mis en place un système biométrique qui fait en sorte que lorsque vous rentrez dans l'aéroport, comme vous le disiez aux États-Unis, vous n'avez plus besoin de sortir votre carte d'embarquement, de poser votre bagage, sortir votre pièce d'identité. Votre visage devient votre carte d'embarquement et votre pièce d'identité. Et vous avez un passage fluide simplement en vous mettant 2 secondes devant un écran.
Et à aucun moment, on va me demander de présenter mes papiers. Sauf pour peut-être des contrôles aléatoires, etc.
Alors,
les papiers sont toujours obligatoires ?
Les papiers sont obligatoires pour passer la frontière. Ok. Encore. Par contre,
en Europe, par exemple.
À l'intérieur de l'espace Schengen, si vous partez de Francfort, on ne vous demandera pas votre pièce d'identité parce que votre visage en devient une. Alors, pour un contrôle aléatoire.
Ce sont des investissements, j'imagine, pour les structures aéroportuaires assez élevées. À Paris, c'est pas encore le cas. Ça va bientôt arriver en France, tout ça ?
Ah, je pense que ça. On a fait une enquête au niveau mondial. On a interrogé plus de 300 décideurs. Dans le monde aérien et dans le monde des aéroports, 50% des aéroports auront à implémenter la biométrie à horizon 2026 et 70% des compagnies aériennes auront implémenté cette technologie également à horizon 2026. Donc c'est un mouvement qui est en cours.
Dernière petite question, on parle beaucoup des JO 2024 et quand on évoquait il y a encore quelques mois les JO 2024, on parlait de ces hélicoptères, vous savez, ces drones électriques qui devaient être inaugurés en une nouvelle ère du transport pendant la compétition. Visiblement, ça ne va pas être le cas. Est-ce que vous avez des infos là-dessus ? Parce que je sais que vous étiez impliqué dans ce projet avec Volocopter et ADP. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Alors, comme tout projet de R&D, parfois ça prend un peu plus de temps que prévu. La problématique est la certification des appareils. D'accord. Et on a des critères de sécurité dans l'aérien qui sont 10 puissance moins 9, c'est-à-dire un accident tous les milliards de vols, donc très élevé. Et cette certification prend un peu plus de temps. Je pense qu'autour des JO de Paris, il y aura encore 2 ou 3 vols qui seront faits de démonstration. Mais on ne pourra pas.
Sans la certification.
Ce sont dans des circonstances.
Voilà, dans des circonstances bien précises.
Prototypes.
Exactement.
Mais on ne pourra pas faire ce qu'on espérait à une époque, une ligne où un passager peut venir s'il décide d'acheter le billet. Donc, ça, c'est les aléas du développement. Cette technologie continue à se développer. Il y a un pari à la fois technologique, mais aussi économique. Trouver le modèle économique.
Bien sûr.
C'est pour ça qu'on garde l'horizon de 2030. Nous, on y croit vraiment.
Il y avait aussi des tensions politiques en fait, sur ce sujet.
Oui,
la mairie de Paris qui était contre. L'acceptabilité. Ça n'a pas facilité aussi l'adoption de ce type de moyens de transport, non ?
Oui, absolument. Alors, il y a des pays qui sont plus favorables que d'autres. Et donc, moi, je pense qu'à horizon 5 à 7 ans, on verra des.
Mais on aura peut-être quelques vols quand même de drones pendant les JO.
Quelques vols de prototypes sont aujourd'hui planifiés. Bon, on verra.
Très bien, merci beaucoup Sergio d'être passé par le plateau de Tech & Co. Passionnant toujours de découvrir CITA et vous en êtes le président Europe. Merci beaucoup.
Merci.